Chapitre 20. Le corps de Rocky réchauffe toute la pièce. La force centrifuge est si grande que j'arrive à peine à bouger. Gémis-je en me dégageant du moniteur éclaté. Je me traîne dans les débris de verre jusqu'à l'écran suivant. J'essaye de ne pas me hisser trop brusquement, d'économiser mes forces. Je glisse mon doigt de l'extérieur vers l'intérieur du moniteur et fais apparaître la sélection d'écran. J'aurai une chance, pas deux. Sur le panneau de navigation, il y a une section contrôle manuel, avec un bouton permettant d'annuler toute rotation. J'avoue qu'il est extrêmement aguicheur, mais je ne peux pas prendre ce risque pour l'instant. J'ai largué deux des réservoirs de carburant, causant peut-être des dégâts insoupçonnés. Pas question de déclencher des moteurs tournants, même les plus petits, ceux qui permettent de corriger l'orientation de l'appareil. J'affiche l'écran de la centrifugeuse. Il clignote d'un éclat rouge et blanc, furieux de ce que le navire ne cesse de tournoyer sur lui-même. Au prix d'un effort intense, je passe outre les messages d'alerte et bascule en mode manuel. Quelques boîtes de dialogue s'ouvrent pour me dissuader de faire ce que je fais, mais je les referme. Bientôt, j'exerce un contrôle direct sur les bobines de câbles. Je règle leur déroulement sur la position maximale. La salle tournoie et penche d'une manière étrange. Mon oreille interne et mes yeux apprécient peu de recevoir des informations antagonistes. Je sais que c'est parce que les deux moitiés du vaisseau sont en train de se séparer, et que cela a un effet considérable sur les forces que je subis dans la salle de contrôle. Je le sais, mais cela n'arrange en rien ma situation. Je tourne la tête et vomis sur la paroi. Quelques secondes plus tard, la force diminue drastiquement, devient bien plus gérable. Elle est inférieure à 1G. Tout cela grâce à la magie des mathématiques de la force centrifuge. La force que l'on ressent dans une centrifugeuse est égale à l'inverse du carré du rayon. En déroulant les câbles, j'ai fait passer ce rayon de 20 mètres, la moitié de la longueur du vaisseau, à 75 mètres. La distance qui sépare la salle de contrôle du centre de gravité de la structure lorsque les câbles sont déroulés au maximum. La force que je subis désormais équivaut à un 1/14 de celle qui m'écrasait plus tôt. Je suis toujours plaqué contre le moniteur, mais bien plus doucement. J'estime la force à 1/2 G. Je respire de nouveau normalement. Tout me semble sans dessus-dessous. J'ai mis la centrifugeuse en route en mode manuel. Aussi a-t-elle fait exactement ce que je lui demandais et rien d'autre. Elle a déroulé les câbles, mais sans faire pivoter la partie habitable du vaisseau pour la tourner vers l'intérieur. La centrifugeuse me pousse vers le nez de la moitié habitée du vaisseau. Le labo est au-dessus de moi désormais, et le dortoir encore plus haut. De toute façon, j'ignore où se trouvent les commandes de la rotation du compartiment habité, et je n'ai pas le temps de les chercher. Pour l'instant, je me contenterai d'évoluer dans un univers inversé. Je fonce vers le sas et je l'ouvre. Le désordre le plus complet règne à l'intérieur, mais je m'en moque. Je libère la combinaison d'AEV retournée et j'en détache les gants que j'enfile. De retour dans la salle de contrôle, je me dresse sur les consoles. Les panneaux d'affichage sont en bas. Avec un peu de chance, je n'endommagerai rien. Je prends position au-dessus de Rocky, agrippe sa carapace de mes mains gantées pour le soulever. Grand Dieu ! Je le relâche. Si j'essaye de le déplacer comme cela, je risque de me casser le dos. Cela n'a pas duré longtemps, mais j'ai tout de même réussi à le soulever un peu. On dirait 90 kilos. Dans une pesanteur normale, il en pèserait le double. Mes mains seules ne suffiront pas. Je me débarrasse des gants et retourne dans le sas. Je fouille sans prendre aucune précaution, jetant des objets en tous sens jusqu'à trouver enfin les deux filins de sécurité. Je les passe sous la carapace de Rocky, puis autour de mes épaules. Je me brûle plusieurs fois les bras durant la manœuvre, mais je m'occuperai de cela plus tard. Grâce à des mousquetons, j'accroche les filins à des boucles sous mon aisselle. Ce ne sera pas confortable, visuellement ce sera laid, mais mes mains seront libres et je soulèverai le poids de Rocky avec les jambes. Je passe les bras à travers les coutilles du labo et j'agrippe le premier barreau de l'échelle. Au début, c'est laborieux. Il faut dire qu'il n'y a pas d'échelle dans la salle de contrôle. Pourquoi y en aurait-il une? Personne ne s'est jamais dit qu'elle se retrouverait à l'envers. Mes épaules hurlent de douleur. Il ne s'agit pas d'un sac à dos étudié, ni d'une charge soigneusement répartie. Nous parlons de 90 kilos d'extraterrestres maintenus par deux minces filins qui mordent dans mes clavicules. Je croise les doigts pour que la température de fusion des cordelettes en nylon soit plus élevée que celle du corps de Rocky. Je grogne et je grimace en gravissant un barreau à la fois et je parviens enfin à poser les pieds dans le labo. Je prends appui sur les bords de l'écoutille pour soulever Rocky à la force des bras. Le laboratoire est dans un état déplorable. Le plafond est jonché de monticules d'objets. Seule la table et la chaise sont restées accrochées, vissées, au sol, au-dessus de ma tête. Par chance, la plupart des équipements importants sont également fixés à la table. On ne peut pas en dire autant, malheureusement, de tous ces accessoires éprouvés et jetés en tous sens par une force équivalente à 6 ou 7G. Je me demande combien de ces objets sont irrécupérables. La pesanteur n'est pas aussi forte ici. Je suis plus près du centre de la centrifugeuse. Plus je grimperai, plus ce sera facile pour moi. Avec les pieds, j'écarte tout ce qui pourrait gêner ma progression vers l'écoutille menant au dortoir. Et puis, je réitère le processus douloureux que je viens tout juste de terminer. La force est moindre, mais cela reste extrêmement difficile. Encore une fois, j'appuie mes pieds sur les bords de l'ouverture pour hisser l'extraterrestre dans le dortoir. Il y a à peine assez de place pour nous deux dans ma section du dortoir. Il règne dans celle de Rocky un désordre total, comme dans le laboratoire. Son établi n'était pas vissé au sol. Aussi se trouve-t-il au plafond. Je le traîne sur le plafond et le hisse sur mon lit. Comme ce lit est monté sur des pivots qui lui permettent de se balancer, il est complètement retourné. Il me servira donc de plateforme pour atteindre le sas séparant nos zones respectives. La porte du sas est ouverte de mon côté. Rocky est sorti par là pour accourir à mon secours. « Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ?» rouspétais-je. « Il aurait pu me laisser mourir. Il aurait dû. Il était parfaitement capable de supporter la force centripète. Il aurait pu prendre son temps, aboutir à une invention qui lui aurait permis de reprendre le contrôle du vaisseau. D'accord, je sais, Rocky est un type bien, et il m'a sauvé la vie. Mais il ne s'agit pas que de nous. Il a une planète à sauver. Pourquoi risquer sa vie et compromettre sa mission pour moi ?» La porte du sas n'atteint pas le plafond, aussi vais-je devoir faire comme si le sol était en lave pour entrer dedans. Je saute dans le sas depuis ma couchette, puis hisse Rocky à l'aide des filins. Je m'apprête à ressortir du sas lorsque j'avise le panneau de commande du sas. Ou plutôt le boîtier détruit de ce qui fut jadis le boîtier de commande du sas. « Non, non, non !» hurlai-je. Il y avait des commandes des deux côtés du sas au cas où. Les miennes ont sans doute été cassées par quelques débris volants. Je dois remettre Rocky dans son environnement, mais comment? J'ai bien une idée, mais elle est mauvaise. Il y a une soupape d'urgence dans le sas lui-même, permettant de le remplir d'air éridien. Cette soupape est prévue pour un cas de figure très particulier. Il est absolument impossible que je pénètre dans la partie du vaisseau dédiée à Rocky. Son environnement me tuerait et la combinaison d'AEV serait écrasée comme un grain de raisin. Rocky, en revanche, pourrait très bien évoluer dans mon environnement à l'aide de sa combinaison sphérique faite maison. Par mesure de précaution, dans le cas où il y aurait une urgence pendant que Rocky serait dans sa boule, la valve permet d'emplir le sas avec son air. Elle s'ouvre grâce à un grand levier en fer que Rocky peut manipuler de l'intérieur de sa boule avec ses aimants. Je fixe du regard le levier. Du coin de l'œil, j'examine la porte donnant sur ma zone avec sa roue. Je regarde de nouveau le levier, puis la roue. Je bande mes muscles et compte mentalement jusqu'à 3. J'abaisse le levier et bondis vers ma partie du vaisseau. Un ammoniaque brûlant inonde le sas et le dortoir. Je claque la porte derrière moi et tourne la roue aussi vite que je peux. J'entends des sifflements de l'autre côté, mais je ne vois rien. Peut-être ne reverrai-je plus jamais rien, d'ailleurs. Mes yeux brûlent comme si j'y avais mis le feu. Mes poumons me font l'effet d'être hérissés de centaines de couteaux. Sur toute ma moitié gauche, je ne sens plus ma peau. Quant à mon nez, oubliez mon nez. L'odeur est tellement intense que j'en perds l'odorat. Ma gorge se referme complètement. Mon corps ne veut plus jamais avoir affaire à cet ammoniac. Or, commençai-je d'une voix sifflante, ordinateur. J'ai envie de mourir. La douleur est omniprésente. Je grimpe dans ma couchette. À l'aide!
Blessures multiples, mucus oculaire surabondant, sang autour de la bouche, brûlure du deuxième degré, difficultés respiratoires, traitement préconisé, intubation.
Les bras mécaniques, qui heureusement semblent s'accommoder d'être à l'envers, me saisissent, tandis que quelque chose est violemment introduit dans ma gorge. Je sens une piqûre dans mon bras valide.
Intraveineuse et sédation.
Alors, les lumières s'éteignent. Je me réveille couvert d'instruments médicaux et baigné de souffrance. J'ai un masque à oxygène sur le visage. J'ai une perfusion au bras droit et le bras gauche bandé jusqu'à l'épaule. En tout cas, j'ai très très mal. J'ai mal partout d'ailleurs, surtout aux yeux. Je n'ai pas perdu la vue au moins, c'est déjà cela. Ordinateur, combien de temps suis-je resté endormi?
Durée inconsciente, 6 heures et 17 minutes.
J'inspire profondément. Mes poumons me font l'impression d'être enduits de goudron. Du phlegme sans doute, ou une poisse quelconque. Je tourne la tête vers la zone de Rocky, qui est étendue exactement là où je l'ai déposée, dans le sas. Comment savoir si un Éridien est mort? Lorsque Rocky dort, tous ses mouvements cessent. J'imagine que c'est la même chose lorsqu'un Éridien meurt. Je repère un oxymètre de pouls sur mon index droit. Ordi, je tousse. Ordinateur, quelle est ma saturation?
91%.
On se contentera de ça. Je retire mon masque et m'assieds sur le lit. Le moindre mouvement réveille les douleurs de mon bras bandé. J'arrache divers objets collés à mon corps. Je serre et desserre mon poing gauche. Il fonctionne. Mes muscles sont seulement un peu douloureux. J'ai été frappé par un souffle d'ammoniac extrêmement chaud et puissant. Selon toute probabilité, j'ai des brûlures chimiques aux poumons et aux yeux, ainsi que des brûlures physiques aux bras. Mon flanc gauche a encaissé le gros du souffle. 29 atmosphères de pression à 210 degrés. C'est comparable à l'effet d'une grenade. Soit dit en passant, avec personne au gouvernail, il est miraculeux que nous ne nous soyons pas écrasés sur la planète. Soit le navire est sur une orbite stable, soit nous avons échappé complètement à l'attraction d'Adrian. Je secoue la tête. La puissance dont je dispose dans les réservoirs de carburant est véritablement phénoménale. Dire que je ne sais même pas si je suis toujours à proximité de la planète. J'ai de la chance d'être en vie, vraiment. À partir de maintenant, tout ce que je vivrai sera un cadeau de l'univers. Je me lève et me dresse devant le sas. La pesanteur est toujours d'un demi-g et tout est à l'envers. Que puis-je faire pour Rocky? Je m'assieds par terre devant son corps. Je pose les mains sur la porte du sas. Comme c'est un peu trop mélodramatique, je les retire. Bon, je connais les bases de la biologie éridienne, mais cela ne fait pas de moi un médecin. J'attrape une tablette et compulse rapidement des documents faits par moi. Je ne me rappelle pas tout ce qu'il m'a dit, mais j'ai pris énormément de notes. Lorsqu'il est grièvement blessé, le corps des Éridiens se met complètement en veille afin de travailler sur tous ses organes à la fois. J'espère que les petites cellules de Rocky sont en train de faire leur travail. Et j'espère qu'elles savent réparer des dégâts causés par 1. Une division par 29 de sa pression atmosphérique. 2. Une exposition prolongée à de l'oxygène. 3. 200 degrés de moins que la température à laquelle son corps est habitué. Je balaye ses inquiétudes et retourne à mes notes. Ah, voilà. J'ai trouvé les informations que je cherchais. Les capillaires du radiateur de sa carapace sont constitués d'alliages désoxydés. Son système circulatoire ambiant pompe son sang à base de mercure dans ses vaisseaux, où il est refroidi par l'air. Dans l'atmosphère dépourvue d'oxygène des rides, c'est logique. Dans la nôtre, cela donne une poudrière parfaite. De l'oxygène est donc passé sur des conduits de métal brûlant pas plus épais qu'un cheveu humain. Ceux-ci ont donc brûlé, d'où la fumée que j'ai vue sortir de ses aérations. Son radiateur était littéralement la proie des flammes. Mon Dieu! Le radiateur doit être plein de suie et d'autres produits de la combustion. Les capillaires doivent être couverts d'oxydes compromettant grandement la conductivité de la chaleur. Les oxydes sont des isolants. En vérité, si c'est le cas, c'est une catastrophe. Bien. S'il est mort, il est mort. Je ne lui ferai aucun mal. S'il est vivant, en revanche, je me dois de l'aider. Il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Mais que faire? Tellement de pression, tellement de température, tellement de mélanges gazeux. Je dois penser à tout. Mon environnement, celui de Rocky, celui de la strate de reproduction des astrophages dans l'atmosphère d'Adriane. Mais d'abord, la pesanteur. J'en ai assez de vivre dans l'aventure du Poséidon. Il est temps de remettre ce navire à l'endroit. Je redescends dans la salle de contrôle. Le moniteur central est détruit, mais les autres semblent en bon état. De toute façon, ils sont interchangeables. Je remplacerai celui du milieu quand j'en aurai le temps. J'ouvre la fenêtre de la centrifugeuse et je manipule quelques commandes du bout du doigt. Je trouve enfin un moyen de contrôler manuellement la rotation du compartiment habitable, caché derrière plusieurs couches d'options. Heureusement que je n'ai pas eu l'idée saugrenue de le chercher au beau milieu de la crise. J'ordonne donc la rotation de la partie habitable du vaisseau. Une rotation très très lente. Je me contenterai d'un degré par seconde. En tout, cela prend donc 3 minutes, durant lesquelles j'entends plein de trucs tomber et se briser dans le laboratoire. Mais je m'en moque. Tout ce que je veux, c'est que Rocky ne subisse aucune blessure supplémentaire. La lente rotation devrait faire glisser son corps sur le plafond du sas, puis sur la paroi et enfin sur le sol. C'est le plan en tout cas. Une fois la rotation terminée, la situation redevient normale, exception faite du demi-jet de pesanteur. Je redescends dans le dortoir pour examiner Rocky. Il gît bel et bien sur le sol du sas et dans le bon sens, ce qui signifie qu'il a glissé comme prévu. J'ai vraiment envie de m'occuper de lui, mais je dois d'abord m'assurer que l'aventure qui lui a coûté peut-être la vie n'a pas été vaine. Je vais chercher la sphère contenant l'échantillon dans le sas principal du navire. Je suis tellement heureux de l'y avoir laissé. La combinaison d'AEV roulée en boule l'a protégé du gros des accélérations erratiques. Rocky a eu la bonne idée d'équiper l'échantillonneur d'un petit écran affichant la température et la pression interne. Il s'agit d'un affichage analogique, utilisant la numérologie en base 6 des Éridiens. Mais j'ai suffisamment d'expérience avec ce système pour savoir le déchiffrer. L'intérieur de la sphère est à moins 51 degrés. Et la pression y est égale à 0,02 atm. Grâce à ma spectrographie préliminaire, je connais la composition de l'atmosphère. Ces conditions climatiques, je vais devoir les dupliquer. Je passe en revue ce qui reste dans le laboratoire. Cela prend du temps car mon bras gauche est presque inutilisable. Je m'en sers néanmoins pour écarter des objets. Pas de musculation pour l'instant. Je trouve un récipient sous vide qui n'est qu'un tout petit peu cassé. Il s'agit d'un cylindre de verre d'une 30 cm de diamètre. Je consolide la fissure avec de l'apoxy et teste le dispositif. On peut en évacuer l'air et y créer un vide. Si le cylindre est capable de rester sous vide, il pourra contenir 0,02 atm. Je mets l'échantillonneur là-dedans. Le placard des produits chimiques est toujours fermement accroché au mur. Je l'ouvre. À l'intérieur, le désordre règne évidemment, mais la plupart des contenants sont fermés. J'attrape la fiole d'astrophage terrien. Il y en a environ 1 gramme, prévu à des fins d'expérimentation. Je pourrai toujours en trouver d'autres en cas de besoin. Il me suffira de couper un des circuits de refroidissement courant sur la coque. Inutile de penser à cela pour le moment, cependant. L'échantillon consiste en un genre de bouillie dans le fond de la fiole. J'ouvre celle-ci et récupère l'échantillon avec un coton-tige. Ce gramme d'astrophage représente 100 millions de joules. Autre chose à laquelle je préfère ne pas penser. J'étale la bouillie sur la paroi intérieure de la chambre à vide et lâche le coton-tige près de la sonde. Et puis j'évacue l'air du cylindre à l'aide de la pompe. Dans les fournitures de chimie, je trouve plusieurs petits cylindres de gaz. Heureusement, les bouteilles en acier sont solides. Aussi ont-elles survécu à notre partie de flipper cosmique. J'ajoute des gaz dans la chambre à vide, un à un, via la valve d'injection. Ce que je veux, c'est répliquer l'atmosphère d'Adriane. J'injecte du dioxyde de carbone, du méthane et même de l'argon. Je n'imagine pas que l'argon puisse réellement compter. C'est un gaz noble, qui ne devrait pas réagir avec les autres. Cependant, je pensais la même chose du xénon et je me trompais. Je n'ai aucun moyen de refroidir cet air à moins 50 degrés, aussi ne puis-je qu'espérer que la vie, là-dedans, survivra dans ma température ambiante. J'entends un clic au moment où je finis d'injecter l'argon. C'est l'échantillonneur. Comme prévu, les petites valves se sont ouvertes lorsque les pressions, à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère, se sont égalisées. Ce bon vieux Rocky, le meilleur ingénieur que j'ai jamais connu. Bien, j'ai mis l'échantillon en sécurité. Enfin, j'ai fait de mon mieux. La composition et la pression de l'atmosphère sont aussi proches que possible de celles de la strate de reproduction. Et il y a plein d'astrophages à manger. S'il y a des prédateurs microscopiques présents, ils devraient être en forme. J'essuie mon front avec mon avant-bras bandé et je le regrette aussitôt. Je grimace de douleur. « Ce n'est quand même pas compliqué, Ryland. Ton bras est cramé, tu ne t'en sers pas. » Je descends l'échelle jusqu'au dortoir. « Ordinateur, analgésique. » Les bras sortent d'une trappe deux gobelets en carton. Le premier empli d'eau, le second contenant deux pilules que j'avale sans même regarder de quoi il s'agit. Je regarde mon ami en essayant d'élaborer un plan. Cela fait plus d'une journée que je l'ai enfermé dans le sas et il n'a pas bougé. Pendant ce temps, je n'ai pas perdu mon temps, endossant mon rôle de savant fou. L'invention de Gadget est plutôt le fort de Rocky, mais j'ai fait mon possible. J'ai réfléchi à plusieurs approches, et puis j'ai fini par décider de laisser son corps se réparer tout seul. Je serais bien incapable d'opérer un humain, alors un Iridien. Son corps se débrouillera fort bien sans moi. Il n'aura pas le choix. Cela ne signifie pas pour autant que je ne vais rien faire. Je pense savoir ce qui se passe, mais si je me trompe, mon idée de traitement ne lui fera aucun mal. Son organe radiateur doit être plein de suie et de résidus de combustion. Cela ne se passe apparemment pas très bien. S'il est en vie, il faudra à son corps un long moment pour se débarrasser de cette crasse. Trop long peut-être. Puis-je l'aider dans ce cas? Je tiens une boîte dans mes mains. 5 de ses 6 faces sont fermées. Les parois sont constituées de 10 cm d'acier. J'ai mis une journée entière à réparer la fraiseuse, mais après, la fabrication de la boîte n'a présenté aucune difficulté. À l'intérieur, se trouve une puissante pompe à air. Tout simplement, elle me permet d'envoyer de l'air à très haute pression. Je l'ai testée dans le laboratoire et elle m'a permis de percer un trou dans 1 mm d'aluminium à 30 cm de distance. Et cela marche vraiment. J'aimerais pouvoir dire que je suis un génie et que j'ai fait tout cela par moi-même, mais la réalité, c'est que j'ai uniquement fabriqué la boîte. La pompe provient d'un réservoir sous pression. La boîte contient également une batterie, une caméra, quelques moteurs pas à pas et une perceuse. J'aurai besoin de tout cela pour mettre en œuvre mon plan. J'ai plus ou moins nettoyé le labo. La plupart des équipements sont détruits. Quelques-uns sont peut-être réparables. Je contourne la table et contemple mon autre expérience. J'ai récupéré un éclat de xénonite, il ne manquait pas après la fabrication de 200 000 maillons de chaîne, que j'ai collé à l'aide de l'époxy à l'extrémité d'une mèche. La résine sèche depuis une bonne heure maintenant. J'attrape le foret et tire de toutes mes forces sur l'éclat de xénonite au bout. Impossible de le détacher. Je souris en hochant la tête. Cela pourrait bien fonctionner. J'effectue quelques tests supplémentaires avec ma boîte. Les contrôles à distance des moteurs fonctionnent correctement. Enfin, à distance, pas tout à fait. J'ai monté des boutons sur un couvercle de boîte en plastique. Les fils qui partent de ces boutons traversent un trou pratiqué dans l'acier que j'ai ensuite rebouché avec de la résine. Je suis donc en mesure d'activer et désactiver tous les composants installés dans la boîte. Je me contenterai de cette télécommande. Je croise les doigts pour que les moteurs résistent à la chaleur et à l'ammoniac. Je rapporte tout cela dans le dortoir où je prépare l'époxy. Je la mélange, puis l'applique généreusement sur les arêtes de la face ouverte du cube en acier. Je pose la boîte contre la paroi du sas et appuie pendant 10 longues minutes. J'aurais pu coller le cube avec du ruban adhésif, mais j'ai besoin d'un joint parfait et je ne veux prendre aucun risque. Les mains humaines font de meilleurs serre-joints que tous les outils disponibles dans le laboratoire. Avec circonspection, je lâche la boîte en m'attendant à ce qu'elle tombe. Mais elle tient. Je lui donne quelques coups et elle a l'air de vouloir rester solidement en place. L'époxy est censé sécher en 5 minutes, mais je lui donne 1 heure. Je retourne au labo. Pourquoi pas? Je vais en profiter pour jeter un coup d'œil à mon terrarium pour organismes extraterrestres. Il ne s'est pas passé grand-chose, apparemment. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Des soucoupes volantes miniatures fusant en tous sens? Le cylindre n'a pas changé. L'échantillon est là où je l'ai laissé. La bouillie contenant les astrophages terriens est toujours là. Le coton-tige... Je m'accroupis puis m'assieds. Je plisse les yeux et examine la chambre à vide. Le coton-tige a changé. Juste un peu. Je le trouve plus... touffu? Génial! Peut-être y a-t-il quelque chose d'intéressant à observer, là. Il me suffit de mettre ce coton-tige sous un microscope et... Oh! Je viens de comprendre que je ne dispose d'aucun moyen d'extraction d'échantillons. J'ai oublié ce détail pourtant primordial. Abruti! Lâchai-je en me donnant une claque sur le front. Je me frotte les yeux. Entre la douleur et les effets des analgésiques, j'ai du mal à me concentrer. Et je suis fatigué. J'ai appris une chose durant mes années de fac. Quand on est complètement cramé, il faut l'admettre et renoncer à résoudre quelque problème que ce soit. Je vais devoir prélever quelque chose dans un contenant scellé et je suis parfaitement incapable de résoudre cette énigme pour le moment. Mais je compte bien y arriver plus tard. J'attrape ma tablette et prends le cylindre en photo. Règle scientifique numéro 1, documenter tout changement inopiné. Peut-être encore plus scientifique, je pointe une webcam sur l'expérience et règle l'ordinateur pour qu'il prenne 1 cliché par seconde. Si quelque chose de lent doit se produire, je veux en être informé. Je retourne dans la salle de contrôle. Où diable sommes-nous? Après quelques secondes passées sur la console de navigation, je comprends que nous sommes toujours en orbite et que celle-ci est plus ou moins stable. Elle se dégradera certainement, mais je ne suis pas pressé. Je vérifie les systèmes du vaisseau et fais autant de diagnostics que possible. Le navire s'en sort plutôt bien, même s'il n'a pas du tout été conçu pour ce genre de situation. J'ai largué 2 réservoirs, mais les 7 restants me paraissent en bon état. D'après mes tests, la coque est fissurée par endroits, mais en interne seulement. Mes astrophages ne sont pas exposés à l'espace et ne risquent donc pas de voir Adriane, ce dont je me félicite. Comme une des micro-brèches est soulignée en rouge, je m'y intéresse de plus près. La position de la fissure met l'ordinateur dans tous ses états. Elle se trouve dans la cloison séparant les réservoirs de carburant et le bord de l'habitacle pressurisé. Je vois où est le problème, évidemment. La cloison concernée se trouve entre la réserve située sous le dortoir et le réservoir numéro 4. Je vais y jeter un coup d'œil. Rocky n'a toujours pas bougé. Rien d'étonnant. Ma boîte en acier est toujours en place. Je pourrais sans doute l'utiliser tout de suite, mais je préfère attendre que l'heure soit révolue. J'ouvre les panneaux de la réserve et sors quelques paquets pour descendre dans le trou avec une lampe torche et des outils. L'espace mesure à peine 1 mètre de haut et je n'y suis pas très à l'aise. Je rampe dans la réserve pendant 20 bonnes minutes avant de localiser la brèche. Je ne la trouve que parce qu'une fine couche de givre s'est formée sur ses contours. L'air qui s'échappe dans le vide se refroidit très vite. La glace a sans doute ralenti le flux d'air. Cela n'a pas beaucoup d'importance cependant. La fuite est limitée et ne risquerait de devenir problématique que dans plusieurs semaines. Le navire a des réserves d'air substantielles, j'imagine. Néanmoins, je n'ai aucune raison de laisser cette brèche telle quelle. J'applique donc une couche généreuse de l'époxy sur une petite plaque de métal que je pose sur la fissure. J'appuie dessus pendant beaucoup plus que 5 minutes, en attendant que la colle prenne. L'époxy met très longtemps à sécher quand il fait froid, et cette cloison, à cause de la brèche, a une température inférieure à 0 degré. J'ai brièvement songé à aller chercher un thermoventilateur dans le laboratoire, mais ça aurait été beaucoup de travail pour pas grand-chose. Je préfère appuyer plus longtemps sur la plaque de métal, environ un quart d'heure. Je m'extirpe de la réserve en grimaçant. Mon bras ne me laisse aucun répit. La douleur est constante. Cela ne fait même pas une heure, mais les analgésiques ne font plus du tout effet. Ordinateur, analgésique.
Dose additionnelle disponible dans 3 heures et 4 minutes.
Ordinateur, insistai-je en fronçant les sourcils. Quelle heure est-il ?
19h15, heure de Moscou.
Ordinateur, règle l'horloge sur 23h, heure de Moscou.
Réglage horloge terminé.
Ordinateur, analgésique. Les bras me tendent des pilules et une pochette d'eau. J'avale tout d'un seul coup. Quel système stupide ! Des astronautes à qui on donne les clés de l'avenir de l'humanité, mais qui n'ont pas le droit de gérer eux-mêmes leur consommation d'analgésiques. N'importe quoi. Bon, il s'est écoulé suffisamment de temps. Je retourne à ma boîte en acier. Tout d'abord, je vais devoir percer un trou dans la xénonite. Ce sera une étape critique, lors de laquelle l'enfer risque de se déchaîner. L'idée, c'est de percer un trou dans la paroi et de contenir la pression de l'atmosphère de Rocky dans la boîte en acier. Mais on ne sait jamais. Mon joint ne tiendra peut-être pas. Je mets un masque médical sur mon nez et des lunettes de protection. Si je dois me prendre un jet d'ammoniac brûlant, autant ne pas en mourir. Plus tôt, j'ai taillé une tige de métal en pointe, dont le diamètre est un peu supérieur à celui de la mèche qui va percer la xénonite. Je brandis donc ma pointe et mon marteau et je me tiens prêt. Si la pression fait sauter la boîte, j'enfoncerai la pointe dans le trou en espérant le boucher. Bien sûr, la pression risque également de ne pas décoller complètement le cube, et les jets seront peut-être multiples autour du joint en époxy. Le cas échéant, je devrais finir de décoller la boîte à coups de marteau avant d'enfoncer mon bouchon de fortune. Oui, ce sera extrêmement dangereux. Le problème, c'est que Rocky risque de mourir sans mon intervention. Vous me direz peut-être que je suis victime de mes émotions, et je vous répondrai « Et alors ?» J'agrippe fermement ma pointe et mon marteau, puis j'active la perceuse. La mèche met si longtemps à forer la xénonite que je finis par me détendre d'ennui. La paroi ne mesure 15 cm d'épaisseur, mais elle est aussi dure que du diamant. Je m'estime heureux que le foret soit efficace, même modestement. La caméra que j'ai installée à l'intérieur de la boîte me montre la progression de la mèche. La xénonite n'est ni du bois, ni du métal. Elle s'apparenterait davantage à du verre. Elle casse, elle éclate. Enfin, le foret transperce la xénonite. Immédiatement, il est projeté dans la boîte et tordu par la pression. Il y a un bruit sec, comme l'atmosphère iridienne emplit le cube d'acier. Par réflexe, je ferme les yeux, avant de les rouvrir quelques secondes plus tard. Si la boîte avait dû céder, elle l'aurait fait tout de suite. Mon joint tient le choc. Pour le moment, en tout cas. Je pousse un soupir de soulagement. Je garde le masque et les lunettes, cependant, on ne sait jamais. Je jette un coup d'œil à l'image vidéo. Je vais devoir faire preuve d'une grande précision. Aussi ai-je pris soin de positionner la caméra de façon à... Le moniteur s'éteint. Une douleur vive se propage dans mon poignet que je retire aussitôt de la boîte. Ah oui, les webcams ne sont pas conçus pour résister à 210 degrés et 29 atmosphères. Quant à ma boîte en acier, eh bien, elle est en acier, justement. Et l'acier est un excellent conducteur. Elle est tellement chaude que je ne peux même plus la toucher. Je me sens bête. D'abord l'échantillon d'atmosphère d'Adriane, et maintenant cela. J'ai envie de dormir, mais Rocky a besoin de moi. Heureusement, la stupidité n'est pas un état permanent. Je compte bien insister. Peut-être parce que, effectivement, je suis trop bête. Bien. La caméra est morte. Je ne peux donc plus voir dans la boîte. Comme la xénonite est transparente, je vois toujours Rocky. Je vais devoir me contenter de cela. Je mets en route ma pompe à haute pression. Elle fonctionne. Du moins, fait-elle du bruit. J'ai l'intention de diriger un puissant jet d'air en direction de Rocky. Lorsque sa pression est de 29 atmosphères, l'air agit un peu comme l'eau. On peut déplacer des objets avec. L'ammoniaque est invisible, cependant. Aussi n'ai-je aucun moyen de savoir où il va. J'ajuste l'angle du jet à l'aide des servomoteurs. Fonctionne-t-il? Je n'en ai pas la moindre idée. La pompe est trop bruyante pour que j'entende leur travail. Je balaye de gauche à droite et de haut en bas de manière systématique. Enfin, quelque chose se passe. Un des leviers à l'intérieur du sas s'agite un peu. Je corrige le tir. Le levier s'enfonce de plusieurs centimètres. Je t'ai eu. Maintenant, je sais où pointe le jet. Je tente ma chance et essaye de viser les fentes du radiateur de Rocky. Comme rien ne se produit, j'entreprends de quadriller le sas, balayant d'avant en arrière et de haut en bas. Ma persévérance finit par porter ses fruits. Et je touche un point sensible. Soudain, une fumée noire s'échappe des fentes de la carapace de Rocky. La poussière et les débris accumulés lorsqu'il était la proie des flammes. Cette réussite est très satisfaisante. Un peu comme lorsqu'on dirige un souffleur d'air comprimé vers les entrailles d'un vieil ordinateur. Je dirige le jet d'avant en arrière, en m'efforçant d'atteindre toutes les fentes une à une. Les dernières ne sont pas aussi sales que les premières. Je pense qu'elles conduisent toutes au même organe, comme le nez et la bouche des humains. Des orifices multiples pour pallier les risques de défaillance. Au bout de quelques minutes, il ne sort plus de poussière. Je désactive la pompe. Mon pote, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'espère que tu pourras te charger du reste. Je passe le restant de la journée à travailler sur deux autres boîtes de confinement que je colle par-dessus mon dispositif. L'atmosphère éridienne va devoir traverser 3 joints pour atteindre mon compartiment désormais. Je pense que ça suffira. J'espère que Rocky se réveillera.